Walter Scott, La chambre tapissée ou La dame en sac. Vers la fin de la guerre d'Amérique, lorsque les officiers de l'armée de Lord Cornwallis, qui se rendit à Yorktown, et les autres qui avaient été faits prisonniers pendant cette lutte impolitique et malheureuse, retournaient dans leur patrie pour raconter leurs aventures et se reposer de leurs fatigues, il y avait parmi eux un officier général auquel Miss Stewart donne le nom de Brown, mais simplement, comme je le compris, pour s'éviter la difficulté d'introduire un personnage sans nom dans une narration. C'était un officier de mérite, aussi bien qu'un gentilhomme distingué par sa naissance et par son éducation. Quelques affaires conduisirent le général Brown à voyager dans les comtés de l'Ouest. Un matin, en arrivant d'un relais, il se trouva dans les environs d'une petite ville qui présentait une vue d'une beauté et d'un caractère tout à fait anglais. La petite ville et son église gothique, dont la tour attestait la dévotion des siècles reculés, étaient situées au milieu de pâturages et de champs de blé de peu d'étendue, mais entourées de haies, d'antiques et grands arbres. On y voyait peu de signes d'innovation moderne. Les environs ne présentaient point la solitude des ruines ni le mouvement qu'occasionnaient des réparations. Les maisons étaient vieilles mais en bon état et la jolie petite rivière qui murmurait en coulant librement à droite gauche de la ville n'était ni retenue par des écluses ni bordée par un chemin de halage. Sur une éminence, environ à 1 mile de la ville, du côté du sud, on apercevait, au milieu de vénérables chênes et d'épais taillis, les tours d'un château aussi vieux que les guerres d'York et de Lancaster, mais qui paraissait avoir éprouvé de grands changements sous le règne d'Élisabeth et de son successeur. Ce n'était pas un bâtiment considérable, mais toutes les commodités qu'il procurait autrefois devaient encore, on pouvait le supposer, être trouvées dans ses murs. Du moins, telle était l'opinion que le général Brown venait de concevoir en voyant la fumée s'élever rapidement des vieilles cheminées sculptées. Les murs du parc bordaient le grand chemin pendant 200 ou 300 verges, et les différentes parties boisées que l'œil pouvait apercevoir semblaient être pourvues de gibier. D'autres points de vue présentaient alternativement tantôt la façade du vieux château et tantôt une partie des différentes tours. Le premier riche dans toutes les bizarreries de l'architecture d'Élisabeth, tandis que l'aspect simple et solide des autres parties du bâtiment semblait prouver qu'elles avaient été construites plutôt comme moyen de défense que par ostentation féodale. Enchanté de ce qu'il pouvait apercevoir du château à travers les bois et les clairières dont cette ancienne forteresse était entourée, notre voyageur militaire résolut de s'informer si le bâtiment ne valait pas la peine d'être vu de plus près, et s'il contenait quelques portraits de famille ou autres objets de curiosité dignes de la visite d'un étranger. Il quitta donc les environs du parc et, traversant une rue propre et bien pavée, s'arrêta devant une auberge qui paraissait assez fréquentée. Avant de demander des chevaux pour continuer son voyage, le général Brown fit quelques questions touchant le propriétaire du château qui avait captivé son admiration. Sa surprise égala sa joie en entendant nommer un gentilhomme que nous appellerons Lord Woodville. Quel bonheur ! La plupart des souvenirs de Brown à l'école et au collège étaient unis à l'idée du jeune Woodville. Quelques nouvelles questions lui apprirent que c'était bien le même que le possesseur de ce beau domaine. Il avait été élevé à la pairie par la mort de son père, et ainsi que le général l'a pris par le maître de l'auberge. Le deuil étant fini, le jeune père prenait possession de l'héritage paternel dans le mois le plus gai de l'automne, accompagné d'une société d'amis choisis qui venaient jouir avec lui des plaisirs de la chasse dans un pays fertile en gibier. Ces nouvelles étaient délicieuses pour notre voyageur. Frank Woodville avait été le compagnon des jeux de Richard Brown Hayton, son ami intime au collège de Christchurch. Leurs plaisirs et leurs travaux avaient été les mêmes, et le cœur du brave soldat jouissait de voir son ancien ami en possession d'une résidence charmante et d'un domaine comme l'aubergiste lui assura avec un signe de tête et en clignant des yeux, d'un domaine capable d'ajouter à sa dignité. Il n'y avait rien de plus naturel que le général suspendît un voyage qui n'était pas pressé pour rendre une visite à son ancien ami dans des circonstances aussi favorables. Les nouveaux chevaux eurent donc seulement la tâche de conduire le général dans sa voiture de voyage au château de Woodville. Un portier reçut l'officier à une loge en même temps moderne et gothique, bâtie dans ce dernier style, pour correspondre avec le château. Ce portier sonna afin d'annoncer une visite. Apparemment, le son de la cloche arrêta le départ de la société qui était sur le point de se séparer pour jouir des divers amusements d'une matinée de château, car en entrant dans la cour, Brown vit plusieurs jeunes gens qui se promenaient en habits de chasse, regardant et critiquant des chiens que des gardiens tenaient prêts pour leur amusement. Au moment où Brown descendit de voiture, le jeune lord vint à la porte du vestibule et pendant un instant arrêta ses regards sur l'étranger, car il ne reconnaissait point un visage que la guerre, les fatigues et les blessures avaient bien altéré. Mais cette méprise cessa aussitôt que Brown lui fait entendre sa voix, et la reconnaissance qui s'ensuivit fut celle de deux amis qui avaient passé ensemble les jours heureux de leur enfance et de leur première jeunesse. « Si j'avais pu former un désir, mon cher Brown, dit Lord Woodville, c'eût été de vous posséder ici dans une semblable occasion que mes amis sont assez bons pour célébrer comme un jour de fête. Oh, ne pensez pas que vous ayez été oublié pendant les années de votre absence. Je vous ai suivi à travers vos dangers, vos triomphes, vos malheurs. Et j'étais heureux de voir que dans la victoire ou dans le désastre, le nom de mon vieil ami fut toujours couvert de gloire. » Le général fit une réponse convenable et complimenta à son tour son ami sur ses nouvelles dignités et la possession d'un aussi beau domaine. « Vous n'avez encore rien vu, répondit Lord Woodville. J'espère que vous n'avez point l'intention de nous quitter jusqu'à ce que nous le connaissiez parfaitement. Il est vrai, je l'avoue, que la société que je possède en ce moment est assez nombreuse, et cette vieille maison, comme les autres bâtiments de ce genre, n'offre pas autant de commodités que l'étendue et l'extérieur sembleraient le permettre. Mais nous pouvons vous donner une chambre meublée à l'antique, et j'aurais espéré que vos campagnes vous ont appris à vous contenter du plus mauvais quartier. » Le général haussa les épaules en riant. « Je présume, dit-il, que l'appartement le plus médiocre de votre château est de beaucoup préférable au vieux tonneau à tabac dont j'étais obligé de faire ma chambre à coucher lorsque j'étais dans les savanes de la Virginie. Je me reposais dans ce tonneau comme l'eût fait Diogène lui-même et j'étais si enchanté d'être à l'abri des éléments que je voulais rouler ma maison dans de nouveaux quartiers. Mais mon commandant ne put pas pouvoir permettre un tel luxe et je pris congé de mon tonneau, les larmes aux yeux. « Eh bien, dit Lord Woodville, puisque vous n'êtes pas effrayé de l'appartement que je vous offre, vous resterez avec nous au moins une semaine. Des fusils, des chiens, des lignes pour pêcher, des filets pour attraper des insectes ou des papillons, tous les moyens de chasser sur terre et sur mer ne vous manqueront pas. Vous ne pouvez inventer un amusement quelconque que nous ne puissions vous procurer. » Mais si vous préférez les fusils et les chiens d'arrêt, je vous accompagnerai et je verrai si vous êtes devenu meilleur chasseur depuis que vous avez vécu parmi les Indiens de l'Amérique. » Le général accepta avec joie la proposition de son ami. Après une matinée employée dans des exercices fatigants, la société se réunit à dîner et Lord Woodville, pendant le repas, chargé mais de pouvoir faire admirer à ses convives presque tous distingués par leur naissance, l'esprit et les qualités de l'ami qu'il venait de retrouver, conduisit le général Brown à parler des scènes dont il avait été témoin. Et comme chaque parole rappelait le brave officier et l'homme sensible qui avait conservé son sang-froid au milieu des plus éminents dangers, la société de jeunes gens éprouva un respect sincère pour le soldat qui possédait un courage réel. Cet attribut dont parmi tous les autres, chaque homme voudrait persuader qu'il est doué. La journée au château de Woodville se termina, comme il est d'ordinaire, dans de semblables maisons. Les plaisirs s'arrêtèrent dans les limites des convenances. La musique, qui était une des occupations favorites du jeune Lord, succéda à la circulation des bouteilles. Il y avait un billard et des tables de jeu pour ceux qui préféraient ces amusements. Mais l'exercice du matin exigeait qu'on se livrât de bonne heure au repos, et peu après 11 heures, les convives de Lord Woodville commencèrent à se retirer dans leurs appartements. Le jeune Lord conduisit lui-même son ami le général Brown dans la chambre qui lui était destinée et qui répondait à la description qu'en avait été faite, c'est-à-dire qu'il n'y manquait rien pour s'y bien trouver, mais n'était pas meublé à la mode. Le lit était de cette forme massive en usage à la fin du XVIIe siècle, et les rideaux de soie fanée étaient garnis lourdement de franges d'or ternies. Mais les draps, les oreillers, les couvertures semblaient délicieux aux soldats lorsqu'ils songeaient à son tonneau. Il y avait quelque chose de sombre dans les tentures de tapisserie qui entouraient la petite chambre. Elles étaient doucement ondulées par la brise d'automne, qui, trouvant un passage à travers les vieilles croisées en treillage, sifflait en pénétrant dans l'appartement. La toilette et le miroir entourés d'ornements en forme de turban, d'une étoffe de soie brune suivant la mode au commencement du XVIIIe siècle, et des centaines de différentes boîtes pourvues de choses utiles à une coiffure qui n'est plus en usage depuis plus de 50 ans, avaient un aspect à la fois antique et lugubre. Mais rien ne pouvait produire une lumière plus brillante que celle des deux énormes bougies, si ce n'est le feu pétillant des fagots qui envoyait en même temps son éclat et sa chaleur. Le petit appartement, malgré son apparence gothique, ne manquait donc d'aucune des commodités que les habitations modernes rendent nécessaires, ou du moins désirables. « Voici une chambre à coucher bien antique, général, » dit le jeune Lord. « Mais je suppose que vous n'y trouverez rien qui vous fasse regretter votre vieux tonneau. »« Non, je ne suis point difficile en logement, » répondit le général. Cependant, si j'étais libre de faire un choix, je préférerais de beaucoup celui-ci aux plus jolis appartements modernes de votre château. Veuillez me croire, lorsque je vois réuni ce qu'il y a de moderne dans cette chambre à sa vénérable antiquité, et que je me rappelle qu'elle fait partie des propriétés de votre seigneurie, je trouve mes quartiers meilleurs que ceux que pourrait me procurer le plus élégant hôtel de Londres. J'espère, je n'en ai aucun doute, que vous vous trouverez ici aussi bien que je le désire, mon cher général, dit le jeune seigneur. Et souhaitant à nouveau une bonne nuit à son ami, il lui serra la main et se retira. Le général regarda encore une fois autour de lui, et intérieurement, il se félicita de son retour à la vie paisible, dont il appréciait davantage les bienfaits en songeant aux fatigues qu'il avait éprouvées et aux dangers qu'il avait courus. Tout en réfléchissant ainsi, il se déshabilla et se prépara en idée à passer une bonne nuit. Ici, malgré l'habitude suivie dans ce genre d'histoire, nous laisserons le général en possession de son appartement jusqu'au lendemain matin. La société s'assembla de bonne heure pour déjeuner. Mais le général Brown, qui était de tous les convives de Lord Woodville, celui auquel le jeune seigneur attachait le plus d'importance, ne parut pas. Lord Woodville exprima plus d'une fois sa surprise de cette absence et finit par envoyer un domestique s'informer de ce qu'il était devenu. Cet homme rapporta bientôt pour réponse que le général Brown se promenait depuis la pointe du jour, malgré un temps froid et pluvieux. « Oh, c'est une habitude de soldat, » dit le jeune Lord à ses amis. « La plupart des militaires ne peuvent plus dormir après l'heure à laquelle le devoir les forçait à se lever. » Cependant, cette explication que Lord Woodville donnait à ses convives lui paraissait à peine satisfaisante à lui-même, et il attendait en silence et comme absorbé dans ses pensées le retour du général, qui eut lieu près d'une heure après que la cloche du déjeuner eut sonné. Brown avait l'air fatigué et malade. Ses cheveux, dont l'arrangement était à cette époque une des plus importantes occupations d'un homme pendant une partie de la journée, et annonçait son goût, comme aujourd'hui le nœud d'une cravate. Ses cheveux étaient en désordre, sans poudre et humides de rosée. Ses habits semblaient avoir été jetés sur lui sans aucun soin, chose remarquable dans un militaire qui, par devoir, est obligé de donner quelque attention à sa toilette. Ses yeux étaient égarés d'une manière étrange. « Ainsi, vous nous avez volé une marche ce matin, mon cher général, » dit Lord Woodville. « Ou bien votre lit ne vous a pas été aussi agréable que je le supposais. Comment avez-vous passé la nuit ?»« Oh, parfaitement bien, remarquablement bien. Oh, c'est la meilleure nuit de ma vie, » dit le général Brown avec précipitation. Et cependant, avec un air d'embarras qui n'échappa point à son ami. Alors Brown avala précipitamment une tasse de thé, refusa tout ce qui lui fut offert, et tomba dans une distraction complète. « Chassez-vous aujourd'hui, général ?» dit le maître du château. Mais il fut obligé de répéter deux fois cette question avant de recevoir cette réponse. « Non, non, Milord, je suis fâché de ne pouvoir avoir l'honneur de passer un second jour avec vous. Mais les chevaux de poste que j'ai commandés seront ici dans un instant. » Toute la société exprima sa surprise et Lord Woodville s'écria. « Mais des chevaux de poste, mon bon ami, mais qu'en avez-vous à faire lorsque vous m'avez promis hier de rester avec moi au moins une semaine ?» « Mais je crois, dit le général évidemment embarrassé, que dans le plaisir que m'ont causé les premiers moments de notre rencontre, j'ai pu dire quelque chose de semblable, mais depuis, j'ai songé que cela m'était impossible. « Mais cela est bien extraordinaire, répondit le jeune lord. Vous n'aviez aucune affaire hier et vous ne pouvez pas avoir reçu des nouvelles aujourd'hui. La poste n'est point encore arrivée de la ville. » Ainsi, vous n'avez pas eu de lettre. » Le général Brown, sans donner d'autres explications, murmura quelque chose sur des affaires indispensables et insista sur la nécessité de son départ d'une manière qui fit cesser toute opposition de la part de son hôte, qui vit que la résolution de son ami était irrévocablement prise. Quelques moments plus tard, il ajouta « Au moins, permettez-moi, mon cher Brown, puisque vous voulez nous quitter, de vous montrer de la terrasse le point de vue que le brouillard qui se lève va nous laisser apercevoir. » En disant ces mots, il ouvrit une fenêtre à châssis et passa sur la terrasse. Le général le suivit avec distraction et sembla faire peu d'attention au discours du jeune lord, tandis que ce dernier donnait des détails sur les différents lieux qui composaient un point de vue digne d'être admiré. Lord Woodville marchait en parlant, et lorsqu'il eut attiré Brown assez loin de la société, il se tourna tout à coup vers lui et lui dit d'un air solennel « Richard Brown, mon ancien et sincère ami, nous sommes sages enfin. Laissez-moi vous conjurer de répondre sur votre parole d'ami et sur votre honneur comme soldat. Comment avez-vous passé la nuit dernière ?»« Eh bien, le plus misérablement possible. « Milord, » répondit le général du même ton. « Oui, d'une manière si affreuse que je ne voudrais pas courir la chance d'une seconde nuit, semblable à la première, non seulement pour toutes les terres appartenant à ce château, mais pour le pays entier que nous découvrons de ce point de vue. « Ceci est bien extraordinaire, » dit le jeune lord, comme en se parlant à lui-même. « Il faut qu'il y ait quelque chose de vrai dans les bruits qui courent sur cet appartement. » Et s'adressant de nouveau au général, il ajouta « Pour l'amour de Dieu, mon cher ami, soyez franc avec moi et faites-moi connaître l'aventure désagréable qui a pu vous arriver sous un toit où, d'après les désirs du propriétaire, vous n'auriez dû avoir que de l'agrément. » Le général parut désolé de cette question, garda quelques moments de silence et dit enfin « Eh bien, mon cher lord, ce qui m'est arrivé la nuit dernière est d'une nature si étrange et si désagréable que je puis à peine avoir le courage d'en donner des détails même à votre seigneurie, car cette sincérité de ma part me conduira à expliquer une circonstance aussi pénible que mystérieuse. Aux yeux des étrangers, la communication que je vais vous faire me donnerait tout l'air d'un sot superstitieux qui se laisse séduire et tromper par son imagination. Mais vous me connaissez depuis l'enfance. Vous ne me soupçonnerez pas d'avoir adopté, dans l'âge mûr, les faiblesses dont j'étais exempt dans ma jeunesse. Le général s'arrêta de et le jeune lord s'empressa de répondre. Oh, ne doutez point de ma confiance dans les communications que vous me ferez, quelque étrange qu'elles soient. Je connais trop la sincérité de votre caractère pour douter de ce que vous m'assurez, et je suis convaincu que votre honneur et votre affection pour moi se feraient également un scrupule d'exagérer les choses dont vous avez pu être témoin. Eh bien, dit le général, je vais commencer mon histoire, aussi bien que je le pourrai, peu confiant à votre générosité, cependant. Je sens que j'aimerais mieux être en face d'une batterie que de rappeler à ma mémoire les odieux souvenirs de la nuit dernière. » Le général s'arrêta une seconde fois. Mais voyant que Lord Woodville gardait le silence et lui prêtait une profonde attention, il commença, non sans une répugnance visible, l'histoire de son aventure nocturne sur la chambre tapissée. Eh bien, je me déshabillais, je me mis au lit aussitôt que votre seigneurie m'eut quitté hier au soir. Mais le bois dans la cheminée qui était presque en face de mon lit répandait une lueur brillante et les souvenirs de mon enfance ainsi que ceux de ma première jeunesse, excités par la rencontre inattendue d'un ancien ami, m'empêchèrent de m'endormir promptement. Je dois dire cependant que ces souvenirs étaient tous d'un genre agréable et gai, fondée sur la certitude d'avoir échangé pour quelque temps les travaux, les fatigues, les dangers de ma profession contre les jouissances d'une vie paisible et celles de ces liens d'affection que j'avais rompus pour obéir aux devoirs de mon état. Et tandis que des réflexions aussi agréables remplissaient mon esprit et me conduisaient peu à peu au sommeil, je fus subitement éveillé par le frottement d'une robe de soie et le bruit d'une paire de talons hauts, comme si une femme marchait dans l'appartement. Et avant que j'eusse le temps de tirer le rideau pour voir d'où provenait ce bruit, une petite figure de femme passa entre mon lit et le feu. Cette femme me tournait le dos, et je pus observer son cou et ses épaules, qui annonçaient qu'elle était vieille. Son habillement consistait en une robe dont la forme passée de mode était ce que les dames appelaient autrefois, je crois, un sac, robe entièrement lâchée à la ceinture, mais dont les larges plis se trouvaient réunis sur le cou et sur les épaules, retombaient jusqu'à terre et se terminaient par une espèce de queue. Je trouvais cette visite assez singulière, mais il ne me vint pas un seul instant dans l'esprit que je voyais autre chose que la forme mortelle d'une des vieilles femmes du château, qui, par caprice, s'habillait comme sa grand-mère et qui, ayant été délogée de sa chambre pour me la céder, avait oublié cette circonstance et revenait à son ancien gîte. Avec cette persuasion, je fis quelques mouvements dans mon lit. Je toussai un peu pour avertir que la chambre était occupée. La vieille se tourna lentement. Grand Dieu, Milord, quel visage elle me fit voir! Oh, je n'eus plus besoin de me demander qui elle était. Il n'y avait pas moyen de penser que c'était un être vivant. Sur un visage qui faisait voir les traits décharnés d'un cadavre, on apercevait aussi les passions viles et haineuses qui avaient animé cette femme pendant sa vie. Le corps de quelque grande coupable semblait être sorti du tombeau pour s'unir de nouveau à l'âme qui avait été autrefois complice de ses crimes. Je frissonnais et je me levais à demi, m'appuyant sur ma main, tandis que j'arrêtais mes regards sur l'horrible spectre. La vieille sorcière fit une seule enjambée vers mon lit, s'y assit, précisément dans la même attitude que j'avais prise au milieu de ma terreur, et elle avança son visage diabolique à une faible distance du mien, avec un grincement de dents dérisoire qui déployait toute la malice d'un esprit incarné. Ici, le général Brown s'arrêta et essuya son front que le souvenir de cette horrible apparition couvrait d'une sueur froide. « Milord, dit-il enfin, je ne suis point poltron. J'ai couru tous les dangers qu'on rencontre dans ma profession, et je puis assurer avec vérité que jamais on ne vit Richard Brown déshonorer l'épée qu'il porte. Mais avec cette horrible figure sous les yeux, et presque entre les mains d'un démon, toute ma fermeté m'abandonna, mon courage disparut comme la cire dans la fournaise, et je sentis mes cheveux se hérisser sur mon front. Mon sang se figea dans mes veines, et je perdis connaissance, victime d'une terreur panique telle que ne fut jamais une jeune fille de village ou un enfant de 10 mois. Je ne puis dire au juste combien je restais de temps dans cet évanouissement. Je revins à moi au moment où l'horloge du château sonnait 1 heure avec autant de force que s'il eût été placé dans ma chambre. Il se passa quelques minutes avant que j'osasse ouvrir les yeux, de crainte que mes regards ne rencontrassent encore cette horrible image. Et lorsque j'eus le courage de regarder autour de moi, l'apparition n'était plus visible. Ma première idée fut de sonner et d'éveiller les domestiques, et de me réfugier dans les mansardes ou même dans un grenier à foin, plutôt que d'être tourmenté une seconde fois par le terrible fantôme. Mais il faut que je confesse la vérité. Je n'eus point la force d'accomplir cette résolution, non pas dans la crainte de dévoiler ma peur, mais parce que le cordon de sonnette était placé près de la cheminée, et que j'éprouvais la crainte de rencontrer le vieux démon que je supposais caché dans quelque coin de l'appartement. Je n'entreprendrai pas de vous décrire les frissons et les chaleurs brûlantes que j'éprouvais alternativement pendant le reste de la nuit. 1 000 objets, plus hideux les uns que les autres, se montrèrent à mes yeux. Mais il y avait une différence immense entre l'apparition première et celle qui la suivirent. Je sentais que les dernières étaient produites par mon imagination bouleversée et mes nerfs irrités. Enfin, le jour parut, et je quittai mon lit, souffrant et humilié. J'étais honteux comme homme et comme soldat. D'autant plus que j'éprouvais un désir extrême de quitter cette chambre habitée par les esprits. Ce désir maîtrisait toute autre considération. Jetant donc à la hâte mes habits sur moi, je me précipitai hors du château pour chercher en pleine campagne un remède à mes souffrances. Votre seigneurie connaît maintenant la cause du désir subit que j'éprouve de quitter le château de Woodville. Nous pourrons nous rencontrer souvent dans d'autres lieux, mais Dieu me préserve de passer une seconde nuit sous ce toit. Quelque étrange que fût cette histoire, le général parlait avec un air de si profonde conviction qu'il prévint tous les commentaires que l'on fait ordinairement sur de semblables contes. Lord Woodville ne demanda point à son ami s'il était sûr de ne point avoir fait un mauvais verre. Il se mit en nommant aucune de ces suppositions par lesquelles on a l'habitude d'expliquer de telles apparitions, une imagination en délire ou la fausse perception du nerf optique. Au contraire, il semblait profondément convaincu de la vérité, de la réalité de ce qu'il avait entendu. Et après un moment de silence, il exprima ses regrets avec une grande apparence de sincérité de ce que son ami avait tellement souffert chez lui. Et je suis d'autant plus fâché, mon cher Brown, ajouta-t-il, que c'est le malheureux résultat d'une expérience que j'avais l'intention de faire. Il faut que vous sachiez que du temps de mon père et même de mon grand-père, l'appartement que vous occupiez cette nuit était fermé en conséquence du bruit qu'on avait répandu qu'il était fréquenté par des êtres surnaturels. À mon arrivée ici, il y a quelques semaines, je pensais que la société qui l'avait accompagné au château était trop nombreuse pour permettre aux habitants du monde invisible de rester en possession d'une chambre à coucher commode. Et j'ordonnais donc qu'on ouvrît la chambre tapissée, car c'est ainsi qu'on appelle cet appartement. Sans détruire son air d'antiquité, je fis placer quelques meubles nouveaux en usage dans les temps plus modernes. Cependant, comme l'opinion que cette chambre était hantée par des esprits prévalait fortement parmi les domestiques, et qu'elle était même connue dans le voisinage ainsi que la plupart de mes amis, je craignais que celui qui l'occuperait le premier ne fût dominé par quelque prévention qui donnerait du crédit au bruit sur la chambre tapissée et tromperait mon désir de rendre cet appartement utile. Ah, je dois avouer, mon cher Brown, que votre arrivée, qui m'était agréable sous mille autres rapports, me parut l'occasion la plus favorable de détruire les bruits relatifs à la chambre tapissée. Puisque votre courage était connu et votre esprit libre de tout préjugé à cet égard, je ne pouvais donc choisir un sujet plus convenable pour mon expérience. Sur mon honneur, dit le général avec un peu d'impatience, je suis infiniment obligé à votre seigneurie, très particulièrement obligé en vérité. Je ressentirai probablement pendant longtemps les conséquences de cette expérience, comme votre seigneurie veut bien l'appeler. Oh, non, vous êtes injuste, mon cher ami, répondit Lord Woodville. Réfléchissez seulement un instant, et vous serez convaincu qu'il m'était impossible de deviner les souffrances auxquelles vous avez été exposé. J'étais hier matin un véritable sceptique en fait d'apparitions surnaturelles, et je suis persuadé que si je vous avais appris les bruits qui couraient sur la chambre tapissée, ces rapports même vous eussent engagé à la choisir pour y passer la nuit. C'est un malheur, mais ce n'est point ma faute si vous avez été tourmenté d'une aussi étrange manière. Oui, étrange en effet, dit le général en reprenant sa bonne humeur. Et j'avoue que je ne dois point en vouloir à votre seigneurie pour avoir cru que j'étais ce que moi-même je croyais être, un homme ferme et courageux. Mais je vois que mes chevaux de poste sont arrivés et je ne veux point priver plus longtemps votre seigneurie des amusements de la matinée. Mon vieil ami, dit Lord Woodville, puisque vous ne pouvez pas rester avec nous un jour de plus, donnez-moi du moins encore une demi-heure. Vous aimiez autrefois les tableaux. J'ai une galerie de portraits dont quelques-uns sont peints par Van Dyck. Ils représentent des ancêtres auxquels ce château et ses dépendances ont appartenu. Je pense que quelques-uns d'entre eux ne vous sembleront pas sans mérite. Le général Brown accepta cette invitation un peu à contre-cœur. Il était évident qu'il ne respirerait point à son aise tant qu'il serait dans le château de Woodville. Il ne put cependant refuser à son ami, d'autant moins qu'il était un peu confus de l'aigreur qu'il avait montrée. Le général suivit donc Lord Woodville à travers divers appartements, jusque dans une longue galerie de tableaux que le jeune lord montra à son ami en nommant les personnages qui étaient représentés dans les portraits. Ces détails n'intéressèrent que médiocrement le général Brown. C'était à peu de choses près ce qu'on donne dans une galerie de portraits de famille. Ici était un cavalier qui avait ruiné ses domaines en servant la cause royale. Là, une belle dame qui les avait rétablis en épousant une riche tête ronde. De ce côté pendait le portrait d'un brave qui avait couru des dangers en entretenant une correspondance avec la cour exilée à Saint-Germain. Ici, un autre qui avait pris les armes pour Guillaume à la Révolution. Et là, enfin, un troisième qui avait jeté alternativement son poids dans la balance des Whigs et des Tories. Pendant que Lord Woodville prononçait ces derniers mots très bas à l'oreille de Brown, les deux amis atteignirent le milieu de la galerie. Et le jeune homme, Lord, vit le général tressaillir en même temps que ses traits exprimaient la plus grande surprise mêlée de crainte. Ses yeux étaient arrêtés sur le portrait d'une vieille dame dans un sac, habillement le plus à la mode à la fin du XVIIe siècle. « Mais la voilà !» s'écria le général. « Mais c'est sa taille, ce sont ses traits, quoique l'expression soit moins diabolique que sur le visage de celle qui m'a rendu cette maudite visite la nuit dernière. » « Eh bien, si cela est ainsi, répondit le jeune lord, il ne peut rester aucun doute sur l'horrible réalité de votre apparition. C'est le portrait d'une méchante femme dont la noire et terrible liste de crimes est consignée dans les archives de ma famille. Le détail en serait épouvantable. Il suffit de dire que dans ce fatal appartement, un inceste et un meurtre contre nature furent commis. Oh, je vais le condamner de nouveau à la solitude, d'accord avec le jugement plus sain de ceux qui m'ont précédé, et jamais, tant que je pourrai m'y opposer, Personne ne sera exposé à la répétition de la scène horrible et surnaturelle qui a ébranlé un courage tel que le vôtre. Les deux amis, qui s'étaient retrouvés avec un tel sentiment de joie, se séparèrent avec des impressions bien différentes. Lord Woodville alla ordonner qu'on démeublât la chambre tapissée et que la porte en fût murée. Le général Brown alla chercher dans un pays moins romantique et parmi des amis d'une sphère moins élevée l'oubli de la nuit affreuse qu'il avait passée au château de Woodville.